Le journal, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous. Quand le confinement aggrave la pauvreté à grande vitesse, plus de cantines, davantage de bouches à nourrir, des frigos vides et des minima sociaux qui s'envolent avant le 15 du mois, les besoins en aide alimentaire sont urgents. La question du retour à l'école avant septembre, très attendue ce soir lors de l'allocution du chef de l'État, les enseignants partagés sur le sujet. Des efforts, oui, mais pas pour rien. Les Français attendent aussi un scénario de déconfinement. Les chefs de partis politiques ont exprimé leurs attentes à Édouard Philippe. Une ligne claire, c'est aussi ce que réclame le monde du spectacle, des événements qui s'annulent les uns après les autres. Et puis tout est dans la stratégie du déconfinement. Dans ce journal, nous irons en Chine, où le coronavirus repart à la hausse.
Et au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui le professeur Richard Delorme. Il est chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Robert Debré.
France Inter.
Des économies entières à l'arrêt dans le monde, 10% de la population mondiale risque de basculer dans la pauvreté, Laurence, à cause du coronavirus.
Et en France, après un mois de confinement, les ONG remontent du terrain des informations pessimistes. Nous ne sommes pas tous égaux face à cette crise sanitaire. Les grands réseaux d'associations d'aide aux plus démunis implantés dans les quartiers populaires font état de besoins en aide alimentaire accrue. Les distributions sont parfois prises d'assaut. Frigos vides, enfants qui ne vont plus à la cantine, des minima sociaux qui s'envolent bien avant le 15 du mois, Claire Chaudière.
D'un foyer à l'autre, les témoignages se ressemblent. Plus de repas, plus de bouches à nourrir, des supérettes discount parfois fermées. 10 jours seulement après avoir touché le RSA, Samira, roubaisienne, mère de 5 enfants, est déjà inquiète.
Je fais les courses la première semaine, deuxième semaine, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. J'ai pas de réserve. On fait comment ?
Même angoisse pour Paulette. 3 ados jusqu'ici à la cantine le midi, désormais à la maison et des repas, raconte-t-elle, de plus en plus légers.
Qu'on ne soit pas riche, c'est un fait, mais qu'on en arrive à ce stade-là, c'est encore autre chose. On n'y arrive pas. Hein. J'en entends beaucoup qui font pas les 2 repas. Il y a des familles où on a faim.
Situation qui se tend nettement, confirme le Secours populaire de Roubaix. Et le constat est valable pour la majorité des quartiers populaires, alerte Mohamed Meshmash de la coordination associative passant.
Nous, on a fait 2 distributions. On a été dépassés par les événements. Les gens sont à l'affût pour pouvoir se nourrir. Tout le monde nous remonte les mêmes infos. On ne voudrait surtout pas en arriver à des situations incontrôlables. Aujourd'hui, on a mis beaucoup d'argent sur l'économie. Mais si on ne s'occupe pas aussi des plus fragiles, si à la fin du déconfinement, on les ramasse à la petite cuillère, l'économie ne repartira pas. Il faut intervenir assez rapidement.
Avec une prime exceptionnelle ou à minima un versement anticipé de l'allocation rentrée scolaire, suggèrent les réseaux associatifs. En tout état de cause, un geste budgétaire dans l'urgence en faveur des 15% des ménages les plus pauvres.
Et certaines villes comme Marseille ont déjà décidé d'offrir une aide exceptionnelle de 100 euros par enfant bénéficiant de la gratuité à la cantine. Les Français suspendus aux annonces d'Emmanuel Macron alors que la population amorce sa 5e semaine de confinement. Le chef de l'État est attendu ce soir aussi bien sur sa stratégie dans la lutte contre le coronavirus que sur la forme prise par le futur retour à la vie normale et notamment enseignants et parents d'élèves s'interrogent sur une éventuelle date à laquelle les établissements scolaires pourraient rouvrir pour accueillir les enfants. Toute la question est de savoir si les élèves reprendront ou non les cours avant l'été. Fabien Cazot.
Les enseignants se montrent assez partagés sur la question d'un retour en classe d'ici fin juin. Pour le principal syndicat du primaire, si l'option était envisagée, il faudrait que les conditions en soient rigoureusement définies. Francette Popineau, secrétaire générale du SNUIPP-FSU.
Peut-être à ce moment-là, faudra-t-il penser à faire des demi-classes, un jour sur deux, ou en tout cas éviter des groupes trop importants d'enfants dans une classe ou dans une école. Ça semble quelque chose qu'il faut conserver au moins jusqu'à cet été.
Du côté des parents d'élèves, on voit mal comment les écoles pourraient rester fermées, surtout si on demande en même temps aux Français de reprendre le travail. Pour Rodrigo Arenas de la FCPE, une seule priorité comptera, la santé des enfants.
Ça veut dire simplement avoir les lieux qui soient évidemment en lien avec les gestes barrières. Ça veut dire qu'on répare aussi les toilettes parce qu'aujourd'hui, malgré l'injonction ministérielle, il s'est heurté à la réalité du fait que les écoles françaises n'étaient pas adaptées à se laver les mains quand on le voulait, n'avaient pas forcément du savon, forcément des serviettes pour se tailler les mains. Vous voyez, si l'école doit reprendre, elle doit reprendre évidemment en fonction des réalités de terrain, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir faire respecter les gestes barrières et aussi prendre soin du moral et de la psyché des enfants.
Seule certitude pour l'instant sur le calendrier scolaire, en classe ou à distance, les enfants auront cours jusqu'au 4 juillet.
Et avant cette allocution présidentielle, l'exécutif, Laurence, a consulté tous azimuts.
Le Premier ministre s'est notamment entretenu ce week-end avec les chefs de parti qui ont exprimé leurs attentes pour le centriste Hervé Morin, à qui Édouard Philippe a téléphoné hier après-midi. La priorité, c'est un cap clair. Hervé Morin avec Élodie Fourret.
Je pense qu'il est temps qu'on puisse dire aux Français, même si on comprend bien qu'il y a énormément d'incertitudes et d'éléments qu'on ne connaît pas ou qu'on maîtrise mal encore, c'est une date, ou tout du moins un créneau à partir duquel on peut espérer que le déconfinement commencera. Je ne suis pas convaincu que nos compatriotes pourront encore accepter des prolongations de confinement tous les 15 jours sans avoir au moins l'idée d'une date à laquelle leurs efforts seront récompensés. Et puis deuxièmement, ce dont on a aussi besoin, c'est ce que représentent les scénarios de déconfinement. Là aussi, j'imagine qu'il y a toute une série d'incertitudes, mais au moins dresser des hypothèses, parce que on a suffisamment reproché au gouvernement l'absence d'anticipation de la crise pour au moins chercher à anticiper un tant soit peu la sortie de crise.
Le centriste Hervé Morin, un cap clair, c'est aussi ce que réclame le monde du spectacle. La liste des événements annulés à cause de la crise sanitaire n'en finit pas de s'allonger. C'est au tour du Solidays d'abdiquer. Le festival de musique parisien de fin juin est annulé. Luc Barruy, le fondateur de Solidarité Sida, l'a annoncé ce matin sur notre antenne. Il avait déjà engagé entre 400 et 500 000 euros pour la 22e édition de ce concert caritatif dédié à la lutte contre le sida. Alors que va-t-il se passer pour les festivals d'été à Avignon, Aix, les Nuits de Fourvière à Lyon. Le monde du spectacle attend beaucoup de l'intervention d'Emmanuel Macron. Ce soir, Dominique Delorme, le directeur des Nuits de Fourvière de Lyon.
C'est aujourd'hui qu'il faut qu'on soit en mesure de prendre les décisions. Donc, moi, il me semble qu'il faudrait un arrêté gouvernemental qui soit pris avant le 15 avril, qui interdise directement jusqu'à fin juillet les manifestations collectives dans lesquelles le respect des distances de sécurité, des gestes barrières, ne pourrait pas être appliqué. Donc nous, bien entendu, on ne pourrait pas appliquer les gestes barrières, parce que quand il y a 4000 spectateurs dans un amphithéâtre, c'est impossible à gérer. Donc à ce moment-là, on tomberait sous le coup de l'arrêté, il serait possible dès aujourd'hui de prendre des décisions et de reporter le festival à l'année d'après. Donc il faut créer des outils de décision, et ça, il n'y a que le gouvernement qui peut le faire, et là, on serait dans un schéma clair.
Dominique Delorme, le directeur des Nuits de Fourvière de Lyon. Sans aucun doute, pour son intervention, le chef de l'État va s'appuyer sur cette étude de l'INSERM publiée hier. Lever le confinement sans mesure stricte de tests et d'isolement s'avérerait inefficace et pourrait entraîner une seconde vague qui submergerait le système de santé. Serait-ce ce qui se passe en Asie, en Chine? Le bilan des victimes du coronavirus repart à la hausse avec un nombre de malades qui augmente depuis 6 semaines. Les explications de Stéphane Pambrin à Pékin.
Le spectre d'une deuxième vague épidémique plane sur l'Asie. La Chine a publié aujourd'hui son plus mauvais bilan depuis début mars, avec un record de cas importés, des Chinois de retour de l'étranger détectés positifs à leur arrivée dans les aéroports. Le coronavirus est-il de retour? C'est l'inquiétude du gouvernement chinois qui marche sur des œufs en levant très progressivement les mesures de confinement. À Pékin, par exemple, les contrôles sont toujours omniprésents avec notamment des QR codes, des codes électroniques sur téléphone portable pour contrôler l'état de santé des habitants, mais aussi éviter leurs déplacements. Le nombre de personnes autorisées à entrer dans la capitale est limité et les écoles ne vont pas rouvrir ici avant le début du mois de mai. Les étrangers ne peuvent plus entrer en Chine. On est donc très loin d'un déconfinement massif. Même inquiétude partout en Asie et notamment à 4000 km plus au sud, à Singapour, où là également le nombre de nouvelles infections est reparti à la hausse, obligeant la cité-État à imposer des mesures très strictes de confinement et fermer la majorité des lieux de travail. Pékin, Stéphane Pambrin, France Inter.
La plus grande baisse de production de l'histoire, voilà l'accord conclu hier soir entre l'OPEP, Organisation des pays producteurs de pétrole, et certains de ses partenaires, États-Unis et Russie en tête. Début mars, la guerre des prix qui avait éclaté entre Moscou et Riyad avait fait dégringoler le prix du baril, et cela au pire moment, alors que la pandémie entraînait une baisse massive de la demande. Conséquence, dès ce matin, le pétrole fait un bond sur le marché en Asie. Boris Johnson est sorti d'affaire. Le Premier ministre britannique, âgé de 55 ans, s'en est, de son propre aveu, sorti de justesse. Tout aurait pu basculer pour lui, a-t-il dit dans une vidéo publiée par ses services à sa sortie de l'hôpital, où il est resté une semaine, dont 3 jours en soins intensifs. Aux États-Unis, 1514 nouveaux décès enregistrés en 24 heures, un chiffre en repli pour le 2e jour consécutif. Les États-Unis sont le pays le plus touché par le Covid-19, avec plus de 22 000 décès et au moins 555 000 cas confirmés. Et puis, signe de repli également en Italie, le pays a, comme la France, constaté une légère baisse du nombre de patients en réanimation pour le 4e jour consécutif, ainsi que du nombre de décès en une journée à l'hôpital. Envie de tout quitter sur un coup de tête, une perspective alléchante en cette période de confinement. Il s'agit de Run, une série à regarder dès ce soir sur OCS. C'est le dernier bébé de cette surdouée des séries, Phoebe Waller-Bridge, auteure de Killing Eve ou de Fleabag. 8 épisodes de 26 minutes pour une course effrénée à travers les États-Unis. Alexandra Hakoun.
Ruby et Billy ont fait un pacte il y a 15 ans avant de quitter la fac. Si un jour, l'un des deux envoie un texto disant « Run », et si l'autre répond la même chose, ils se retrouveront à New York sur un quai de gare et prendront la fuite ensemble. Alors quand Ruby reçoit un matin le message de son ancien amant, elle qui s'ennuie dans son quotidien de femme au foyer, elle ne réfléchit pas longtemps.
Don't ask me any questions, just give me a goddamn ticket.
Le début d'une histoire romantique, ce serait mal connaître Phoebe Waller-Bridge, la géniale scénariste britannique de Fleabag et Killing Eve, qui signe cette série avec sa comparse de toujours, Vicky Jones. Peut-on vraiment tout larguer sans se retourner?
Why did you text me?
Que sait-on de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 15 ans?
I've got the best job in the world.
Oh, don't be that guy, because it doesn't work with me.
Le voyage en train des deux fuyards à travers les États-Unis va tourner au thriller, bourré de situations rocambolesques et de dialogues percutants, le tout porté par deux comédiens impeccables, l'Irlandais Domhnall Gleeson, rescapé de la série des Harry Potter, et l'Américaine Merritt Weaver, révélation de l'excellente Unbelievable sur Netflix. Phoebe Waller-Bridge s'offre même une apparition dans le rôle d'une taxidermiste on ne peut plus étrange.
She's completely dead. Almost perfect.
Un régal.
Run ce soir sur OCS.
Merci Laurence Thomas.